Radio Okapi. Journal présenté par Jacques-Yves Molima.
Conférence des hommes sur la masculinité positive à Kinshasa. Les travaux se sont clôturés hier jeudi. À l'occasion, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi, tout en fustigeant le fait que les violences sexuelles sont utilisées comme armes de guerre dans les conflits armés, il a appelé les hommes occupant les postes de responsabilité d'influencer d'autres hommes pour mettre un terme à cette situation. Concrétiser le projet de fabrication de batteries de véhicules électriques, tous les partenaires techniques et financiers sont engagés à mettre en œuvre la feuille de route issue du forum DRC Africa Business qui s'est clôturé hier ici à Kinshasa. Enfin, nous recevons dans cette édition du journal le réalisateur belge Thierry Michel. Avec lui, nous parlerons de son dernier film, L'Empire du Silence, qui sera présenté pour la première fois à Kinshasa ce vendredi 26 novembre au Palais du Peuple. Voilà tout pour le sommaire. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et merci de nous recevoir chez vous pour cette édition du journal. La République démocratique du Congo est l'un des pays africains le plus touché par les violences sexuelles basées sur le genre depuis plus de deux décennies à la suite des affres des groupes armés. Cette déclaration est du président Félix-Antoine Tshisekedi hier jeudi à Kinshasa à l'occasion de la conférence des hommes sur la masculinité positive. Ce concept fait référence aux caractéristiques et comportements propres aux hommes mais dépourvus de violence et engagés dans la promotion de l'égalité de genre. Dans sa double casquette du président de la RDC et président de l'Union africaine, il a fustigé le fait que les violences sexuelles sont utilisées comme armes de guerre dans les conflits armés. Il appelle les hommes occupant les postes de responsabilité d'influencer d'autres hommes. On écoute le président Félix-Antoine Tshisekedi dans cet extrait proposé par Alain Irung.
Malgré ces efforts consentis par tous, la courbe de la violence faite aux femmes et aux filles reste quasi linéaire. Pire encore, dans les zones à conflit, la violence envers les femmes et les filles est utilisée comme arme de guerre et comme moyen d'expression la plus brutale, systémique, sournoise, voire perverse, pour déstructurer les communautés. En effet, force est de constater que les politiques et programmes mis en place à ce jour n'ont pas permis de transformer les inégalités structurelles et institutionnelles qui conduisent à la violence à l'égard des femmes et des filles. Cette situation exige des actions d'envergure, innovantes et accélérées, pour inciter tous les acteurs de la société à participer activement aux efforts visant à éradiquer ce désastre. Les hommes occupant des postes à responsabilité ont un rôle particulièrement important à jouer pour influencer d'autres hommes à se mettre d'accord sur les stratégies efficaces et efficientes pour prévenir et mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles en Afrique.
Notons que cette conférence est clôturée sur l'adoption de la déclaration de l'Union africaine pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles. Six chefs d'État africains ont pris part à ce sommet. Il s'agit du Sénégalais Macky Sall, du Ghanéen Nana Akufo-Addo, le Togolais Forgnan Sigbe, le Zambien Hakainde Hichilema, le Rwandais Paul Kagame et le Congolais d'en face Denis Sassou Nguesso. La présidente honoraire du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, a participé aussi à ce sommet en qualité notamment de marraine du forum. Rappelons que cette conférence s'est tenue en marge de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, célébrée le 25 novembre de chaque année. Justement, à l'occasion de la célébration de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, affirmait que l'élimination des violences sexuelles faites aux femmes doit être une priorité, surtout en cette période de Covid-19 qui a exacerbé les inégalités. Le plaidoyer de Denis Mukwege est contenu dans une déclaration dont le condensé nous est proposé ici par Cynthia Bachizi.
Le docteur Mukwege a identifié ce qu'il qualifie d'arme utile des agresseurs, le silence. Voilà pourquoi il faut briser ce silence. De quelle manière? D'abord, les victimes sont encouragées à porter plainte contre leur bourreau, mais aussi les témoins des agressions doivent dénoncer ces actes. Il faut pour cela mettre fin à la culture de l'impunité, tout simplement parce que de l'avis de Denis Mukwege, les violences faites aux femmes constituent les plus graves violations des droits humains. Mais ces actes sont évitables et l'un des outils les plus efficaces pour lutter contre ce fléau est l'éducation qui doit commencer dès le plus jeune âge, précise le docteur Mukwege. Ce n'est pas tout. L'éducation doit s'accompagner d'une réelle volonté politique pour supprimer toutes les lois rétrogrades relatives aux droits humains des femmes et adopter en lieu et place des lois progressistes. Celui que l'on a surnommé l'homme qui répare les femmes plaide ainsi auprès des pouvoirs publics pour la mise en œuvre d'un programme de prise en charge holistique. Et cela inclut une assistance psychologique, médicale, socio-économique et légale. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
On ne peut pas lutter efficacement contre les violences à l'égard de la femme et de la jeune fille si la communauté tolère certains actes de violence. Propos de la coordinatrice de la Maison de la Femme au Nord Kivu à l'occasion de la journée de l'élimination des violences à l'égard de la femme et de la jeune fille le 25 novembre. Pour Valérie Wassou, la lutte pour l'élimination de ces violences ne peut aboutir que si la communauté perçoit les actes de violence comme tels, ce qui n'est pas souvent le cas. Valérie Wassou fustige la banalisation des violences sexuelles dans la communauté. Elle est au micro de Rosalie Zawadi.
Il y a beaucoup de gens qui essaient de voir ça comme un petit problème, surtout lorsqu'il s'agit d'un viol qui est commis au niveau d'une grande personne. Là, souvent la communauté se dit, voilà, c'est quelque chose qui va passer. Est-ce que ça a donné des traces sur ton corps? Est-ce que c'est ce que tu veux montrer à la communauté ou aux organisations que tu as été maltraité? C'est qu'au niveau de la communauté, il y a encore cet aspect-là de banaliser les violences basées sur le genre. Lorsqu'il s'agit d'une petite fille, là au moins, la communauté voit que c'est vraiment un problème qui doit être résolu. Mais lorsqu'il s'agit d'une grande personne, là on essaie de banaliser. Et on dit même à cette victime-là, vous faites ça chaque jour et pourquoi aujourd'hui vous voulez montrer que c'est un problème? Il faut que la communauté arrive à comprendre que les violences basées sur le genre, c'est une question à prendre vraiment au sérieux parce que ça affecte la victime au niveau mental, physique et au niveau économique.
Madame Wassou indique par ailleurs que pendant cette période de 16 jours d'activisme, les acteurs de protection de la femme vont orienter leurs actions dans la conscientisation de la communauté à ce sujet. Alors, Radio Capi poursuit sa série de reportages amorcés à l'occasion du lancement depuis le 25 novembre des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. Aujourd'hui, nous allons au Kasaï Central pour parler de la violence domestique. La pratique est courante selon les constats faits. Certaines ONG travaillant dans la région relèvent régulièrement des cas, même si les femmes victimes évitent d'en parler. Depuis Kananga, retrouvons François Kadima.
Violence domestique, même si plusieurs femmes préfèrent garder silence, quelques-unes se plaignent quand même de ne pas être consultées en matière de relations sexuelles ou sont discriminées par rapport à l'accès aux ressources financières et matérielles. Écoutez les témoignages de cette dame qui a accepté d'en parler.
Mon mari m'a épousée depuis mon jeune âge. Il a pris l'habitude de boire. Et il a commencé à revenir à la maison sans salaire. Je ne pouvais pas lui demander des comptes. Si je tente de poser une seule question, c'est la violence qu'il utilise sur moi. Et actuellement, j'ai même des difficultés au niveau des dents suite à tous les coups de mon mari.
Plusieurs organisations rapportent enregistrer régulièrement des cas liés à cette violence domestique ou conjugale. Selon l'ONG Femmes Mettent dans la Main pour le Développement du Kasaï, ces femmes subissent cette violence qui, des fois, est liée aux coutumes avilissantes. Nathalie Kambala.
Juste au début du mois d'avril, plusieurs cas ont été enregistrés dans la catégorie des violences domestiques et violences conjugales. Il y a un coin encore dans notre province ici, on a enterré deux femmes grosses parce que le mari avait besoin de manger, parce que le mari avait besoin de son sexe.
Au gouvernement provincial, la ministre du genre reconnaît que ce genre de pratiques existent. Selon Sylvie Kafunda, un édit sur les coutumes avilissantes a même été voté par l'Assemblée provinciale. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Notez que demain samedi, nous irons à Bukavu, au sud Kivu, pour faire le point sur les violences basées sur le genre. Et puis en plus bref, procès des experts de l'ONU tués en 2017 au Kasaï, l'audience d'hier jeudi a tourné autour des crimes de guerre par meurtre, troisième prévention retenue contre les personnes accusées dans cette affaire, faisant passer tour à tour les différents prévenus à la barre, dont Vincent Menga. L'officier du ministère public a indiqué que le cité a été un acteur majeur dans la mise à mort des Zaïda Catalane et Michael Sharp. Cet acte le condamne et les autres accusés pour crimes de guerre par meurtre. Tous les partenaires techniques et financiers sont engagés à mettre en œuvre la feuille de route issue du forum DRC Africa Business pour concrétiser le projet de fabrication des batteries des véhicules électriques. Déclaration du directeur général de la Banque arabe pour le développement de l'Afrique, Badea, l'un des financiers de cette initiative. Sidi Ould Tah l'a dit hier jeudi 25 novembre ici à Kinshasa. C'était justement en marge de la clôture de ces assises. Sidi Ould Tah est au micro de Paul Matendo.
Nous sommes tout à fait confiants, nous avons toutes les assurances d'avoir le soutien et le leadership nécessaire. Et tous les partenaires sont engagés pour mettre en œuvre la feuille de route qui est retenue avec le gouvernement pour que cette initiative puisse voir le jour le plus rapidement possible sous forme de projets concrets pour réellement permettre pour la première fois la fabrication de précurseurs de batteries, ensuite des batteries et ensuite des véhicules électriques.
En termes de cette feuille de route, quelle peut être la part de la Badea?
La Badea n'est pas seule. La Badea travaille en étroite collaboration avec tous les autres partenaires, en particulier avec la Commission économique pour l'Afrique, l'Afrexim-Bank, la Banque africaine de développement. Et ensemble, nous nous concertons pour mettre en œuvre ce projet, bien sûr, sous le leadership et avec l'accompagnement des autorités de la République démocratique du Congo.
Autre nouvelle, des magistrats et chefs des institutions anticorruption sont armés des outils de recouvrement des avoirs criminels dissimulés afin de les restituer au trésor public. Au cours d'une formation de 4 jours clôturée hier jeudi par la Cellule nationale de renseignement financier, CNRF, en partenariat avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, les participants ont recommandé à l'État congolais notamment de renforcer et stabiliser les ressources financières et humaines de la CNRF en bonifiant son budget. Reportage, Jeff Ngoy.
La CNRF, qui a la mission principale de réaliser le plan d'action de lutte contre le blanchiment de capitaux, se trouve confrontée à plusieurs difficultés, notamment l'insuffisance de ses ressources. Son secrétaire exécutif, l'avocat général Adler Kisula, plaide pour accéder au réseau sécurisé d'échange d'informations. Quelles recommandations phares à retenir?
Les experts de la CNRF ainsi que toutes les structures impliquées dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sont suffisamment armés pour que désormais qu'ils puissent considérer la recherche et la récupération des patrimoines issus de ces crimes financiers comme leur priorité.
Accusés parfois des violations de la présomption d'innocence dont juste encore des personnalités qu'ils dénoncent à travers ces communications, l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alinguete, affirme que ces communications sont une stratégie dissuasive dont a peur le voleur.
Les voleurs n'aiment pas les bruits. Voilà pourquoi nous avions compris qu'il fallait vraiment faire des bruits de manière à ce qu'ils puissent se reculer.
Alexandra Bobilkova, représentante de l'ONIDC, s'est dit satisfaite des résultats de l'atelier.
La RDC a développé le plan d'action pour renforcer ce régime.
La CAJ salue ainsi le travail abattu par la CNRF pour récupérer des fonds criminels.
Et puis au Sud Kivu, cela n'était pas arrivé. Il y a longtemps, une cargaison de près de 5000 tonnes de cassiterite en provenance de Kasese au Maniema est arrivée ce jeudi à Bukavu. Ce transfert aérien est réalisé dans le cadre de la reprise de la libre circulation des minerais entre le Sud Kivu, le Maniema et le Nord Kivu. Sintia Bachizi.
Aéroport de Kavumu. Deux allers-retours d'un petit porteur ont été nécessaires pour livrer la centaine de sacs de cassiterite attendus. Cette reprise de la libre circulation des minerais va permettre de faire respecter la traçabilité et renforcer ainsi la lutte contre la fraude minière dans le Grand Kivu, mais bien plus encore. Apollinaire Boulindi, ministre provincial du Sud Kivu.
Ça va soulager la population, surtout du Maniema, et la population du Nord Kivu et Sud Kivu, parce qu'à Kindu, on prenait les minerais à moins cher. Par exemple, 1 kilo pour 4 $, 5 $, mais à partir du moment où ça se trouve au Nord Kivu ou au Sud Kivu, ça va se vendre à un prix autour de 15 $ le kilo. Sur le plan du code minier, les transferts des minerais est autorisé. Mais ça ne se faisait pas parce qu'il y avait une sorte de complicité. Certaines personnes qui ne pensaient pas que la population du Maniema pouvait aussi bénéficier de ces minerais. C'est pourquoi nous avions adopté ça au niveau de Goma. Le ministre des Mines du Maniema, le ministre des Mines du Nord Kivu et le ministre des Mines du Sud Kivu.
Notez que seule la cassiterite a été livrée ce jeudi 25 novembre à Bukavu, mais la libre circulation des minerais concerne tout aussi bien les minerais communément appelés 3T. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Au Kassai Oriental, le gouverneur de province intérimaire a lancé hier jeudi à Mbujimayi les travaux de réhabilitation et de modernisation de l'aéroport de Mbujimayi. Selon le directeur général de la régie des voies aériennes, la première phase des travaux sera exécutée pendant 24 mois par l'entreprise Xinjiang International Construct à hauteur de 23 millions de dollars financés par la Banque africaine de développement. Esther Ndalafina, reportage.
Construit en 1955, les statistiques de la régie des voies aériennes indique que l'aéroport de Mbujimayi reçoit par an plus de 68 000 passagers. D'après Jean-Baptiste Lama, coordonnateur du bureau de contrôle Air Interplane, la piste de cet aéroport se trouve dans un état de délabrement très avancé.
On constate des dépressions, des fissures, des arrachements, des ressuyages. Et le plus frappant, ce sont des décollages liés au fait que la couche de roulement n'est pas collée à la couche de base qui est en grave bitume. Donc à chaque atterrissage, à chaque décollage, on assiste à des décollages des plaquettes de la couche de roulement. La piste de l'aéroport de Mbujimayi ne dispose pas d'accotement. Le tarmac existant empiète la bande de piste.
D'après Alphonse Chung, directeur général de la RVA, la première phase des travaux s'étalera sur trois axes majeurs.
Primo, pour la composante infrastructure aéroportuaire, la construction d'une nouvelle tour de contrôle, d'une nouvelle centrale avec équipement et d'une caserne anti-incendie et ses annexes. La réhabilitation et le prolongement de la piste avec balisage lumineux, renforcement et extension du tarmac plus bretelles et taxiway et éclairage au sol, lutte anti-érosion.
Le DG de la RVA a annoncé le début en Mbujimayi d'une étude pour l'aménagement d'une zone fret pour le développement de cet aéroport. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Gabon, à 2 ans de la prochaine élection présidentielle prévue fin 2023, le parti au pouvoir, le Parti démocratique gabonais, annonce la tenue d'un congrès extraordinaire le 12 décembre prochain. La tenue de ce congrès, à un moment où on ne s'y attendait pas, suscite des interrogations.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal est le réalisateur belge Thierry Michel qui nous parle de son dernier film « L'Empire du silence » qui sera présenté pour la première fois à Kinshasa ce vendredi 26 novembre. Il s'entretient ici avec Jean-Marc Matouaki.
Thierry Michel, bonjour.
Bonjour, Jeannot.
Qu'est-ce qui motive la réalisation de ces films? Quel est l'objectif derrière ces projets, Thierry Michel? On sait que vous n'êtes pas à votre première réalisation sur les Congos.
Non, je crois que c'est la 11e ou 12e, je ne sais plus. J'ai commencé en 1991, lors des pillages. Et c'était la date historique de la fin du mandat du maréchal Mobutu, le 4 décembre 91. Voilà, depuis lors, j'ai fait beaucoup de films, évidemment, sur toutes les régions et toutes les thématiques. Mais j'ai fait un film historique qui reprenait à peu près 32 années de l'histoire du Congo. C'était le règne du maréchal président Mobutu. Ça s'appelle Mobutu, roi du Zaïre. Et j'ai voulu refaire la suite de l'histoire. C'est-à-dire, maintenant, faire un film qui retrace les 25 dernières années de l'histoire du Congo à partir du moment où c'est la fin du règne de Mobutu. Il va partir mourir en exil. Kabila va prendre le pouvoir avec la FDL. Il va être assassiné. Son fils va le remplacer. Je remonte toutes ces années jusque la session de Félix Tshisekedi, la magistrature suprême. Donc c'est un retour dans l'histoire. Je pense que les Congolais, et nous aussi, les étrangers, les Belges, début fragmenté de l'histoire congolaise et qu'il était bien de remontrer la ligne du temps et de faire comprendre l'enchaînement des événements qui se sont passés. Alors c'est vu principalement par le prisme, malheureusement, là je pense qu'on entre dans le détail de la guerre, première guerre, de la deuxième avec l'occupation rwandaise, de la deuxième guerre de 98, et puis de différents épisodes qui ont marqué l'histoire, dont par exemple la guerre des six jours de Kisangani, et on remonte tout le temps jusque les fameux événements du Kassai et malheureusement tous les massacres qu'il y a eu au Kassai et l'assassinat des deux experts des Nations Unies. Et on termine le film par l'accession au pouvoir de Félix Tshisekedi et puis par un mot du docteur Mukwege. C'est le discours d'Oslo du docteur Mukwege qui ouvre le film. Alors je dois dire une chose à ce propos-là, c'est vraiment le docteur Mukwege qui m'a poussé à faire ce film. Il m'a dit, après L'homme qui répare les femmes, qui est un film sur la guerre à l'Est et le viol des femmes et le travail exemplaire du docteur devenu prix Nobel depuis, il m'a dit, après un film sur les victimes, il faut absolument faire un film sur les bourreaux.
Alors Thierry Michel, une dizaine de films sur les Congo réalisés durant 30 ans déjà, 30 oui, ans des oui. tournages sur les Congo. Quel est le retour que les réalisateurs que vous êtes a pu enregistrer jusque là? Est-ce qu'à travers ces films, il y a des choses qui ont pu bouger? Estimez-vous que vous avez joué un rôle déterminant?
Il y a un rôle déterminant, c'est préserver la mémoire. Comme on sait, au Congo, tout le monde n'a pas l'accès aux livres, aux journaux, mais les images, c'est vraiment l'art le plus populaire qu'on puisse avoir. Et donc, je pense que si on met tous ces films bout à bout, on a une mémoire des 30 dernières années du pays, ça c'est essentiel. Alors, il y a des films qui ont bien sûr eu un impact. Si on prend le film L'affaire Chebeya, un crime d'État, interdit d'ailleurs, à l'époque, je rappelle que j'avais été expulsé et que le général Numbi m'avait fait un procès en Belgique. Mais il y a quand même une fin à cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, le général Numbi qui me poursuivait en justice, c'est lui qui est poursuivi et qui est en fuite. Donc voilà, cette affaire, au moins, il y a la trace de ce film qui a permis de faire avancer ce dossier.
Que vous inspire les Congo, Thierry Michel?
Mais le Congo, c'est un pays continent à l'histoire tellement... C'est un pays d'une richesse incommensurable, la richesse du sous-sol, la richesse du sol, la richesse de ses bois, la richesse de l'énergie, la richesse de la population, la jeunesse de la population. Voilà, c'est un pays fabuleux, mais qui n'a pas encore trouvé son cap. On va dire que les élites politiques, presque depuis l'indépendance, ont toujours empêché ce pays d'émerger, de devenir un grand pays. Le Congo a des richesses que beaucoup de pays asiatiques n'ont pas. Il devrait être classé dans les pays les plus pauvres du monde, où les revenus sont les plus bas. On sait bien que les Congolais n'ont pas 2 dollars par jour de moyenne pour vivre. C'est inadmissible. Voilà. Donc il faut aujourd'hui qu'il y ait des personnalités qui émergent et qui soient des exemples aussi, des grands leaders qui soient des exemples. Malheureusement, il y a quand même chez les Congolais, je pense souvent, un manque de confiance. Manque de confiance en soi, voilà, un rapport à l'histoire difficile, il faut vraiment sortir. Et à nouveau, c'est ce que dit le ministre d'information, un nouveau narratif qui soit beaucoup plus porté vers l'avenir avec un déterminisme de la volonté redoutable pour que ce pays puisse enfin émerger et que les gens puissent enfin vivre de manière apaisée. D'abord la paix, ce qui n'est pas le cas dans certaines régions, vous savez très bien. Et puis que les Congolais aient droit au bonheur tout simplement, comme tous les autres peuples du monde.
Thierry Michel, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci de l'invitation.
Le réalisateur belge Thierry Michel, auteur du film L'Empire du silence, qui sera projeté ce vendredi, demain samedi et le lundi à 18h au Palais du Peuple, des séances de projection qui seront suivies d'un débat. C'est avec lui que nous mettons un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis.